Mais non, on ne mesure pas encore toutes les conséquences de cette onde de choc. Et donc, c'est de cela qu'on va parler ce soir avec nos deux experts. Donc, je vais prendre par ordre alphabétique Renaud Belet. Donc, Renaud Belet qui n'est pas de la région, n'est pas en permanence dans la région. Il bouge beaucoup, mais il est quand même basé plutôt à Paris, on va dire. Donc, Renaud est économiste pour une filiale du travail, donc il a un emploi dans le privé. Il est économiste dans une filiale d'Airbus, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il est
Un entend
économiste
impeccable et on aimerait voir
donc,
l'interlocuteur qui parle.
spécialiste des questions de sécurité. Il collabore à plusieurs cursus universitaires en France. Il travaille aussi sur la sociologie de l'innovation. Et il est co-directeur de l'Observatoire de la Défense à la Fondation Jean Jaurès, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, ont entendu parler. Et puis, donc, avec nous aussi, Delphine Deschaux-Dutard, que certains d'entre vous ont déjà vu au forum, deux ou trois fois, je pense, non?
Ce n'est pas trois mêmes fois.
Troisième fois, d'accord. Donc, Delphine est maître de conférence de sciences politiques à l'UGA, à la faculté de droit. Elle a fait un petit livre qui est très pédagogique, que je vous recommande vivement, l'introduction à la sécurité internationale aux presses universitaires de Grenoble. Et elle travaille sur politique de sécurité, politique de défense, politique européenne. Et donc, voilà. Donc, je crois on va pouvoir commencer, sauf si sur ce résumé de CV, vous avez des choses à ajouter qui me semblent très, très importantes. Si tu peux monter, Bertrand.
Je vais faire ça.
Tu as la parole.
Alors,
Un, deux, un, deux. Bon, donc, alors, avant de leur donner la parole, tous les deux font partie demain d'une journée d'études qui va se dérouler sur le campus universitaire à l'IMAG. À l'IMAG, c'est le centre du campus. Vous pouvez y aller et vous pouvez aussi suivre par visio. Si vous allez sur quel site ils peuvent trouver les coordonnées de la visio?
Alors, ça sera sur le site du CNES,
Le
notre
site.
laboratoire à tous les deux.
Voilà. Donc, oui, je voulais le dire tout à l'heure, j'ai oublié. Le CESIS, donc, qui travaille sur les questions de relations internationales, de sécurité internationale. Et donc, sur le site du CESIS, vous avez les coordonnées de la vision. Voilà. Donc, c'est donc l'Ukraine, un conflit qui dure depuis 18 mois, beaucoup de morts. Peut-être qu'on aura des précisions tout à l'heure sur le nombre de morts, c'est un peu débattu sur les chiffres. Il y a beaucoup, c'est une guerre évidemment militaire, mais il y a aussi une guerre de communication et du dit et du non-dit de chacun des belligérants. Et c'est un front très long, près de 1000 kilomètres, je crois, et un front qui a peu bougé depuis 2023, mais c'est, on va dire, ce qu'on va surtout débattre, enfin, surtout rappeler dans le premier temps de nos échanges. Chacun des experts se limite à 5 minutes, dit l'essentiel. Donc, on commence avec Renaud, après 18 mois de combat, où en est le conflit?
Une question, merci. Bonsoir à tous. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la nature du conflit, en fait? Donc, on voit sur la carte qu'on a, en fait, un front qui s'est stabilisé, comme tu le disais à l'instant, sur le front est, qui correspond quand même assez, en grande partie, aux provinces qui étaient révoltées, en fait, à partir de 2014, peut-être l'instigation de la Russie, si on peut dire, et donc aussi en 2008, à la conquête de la Crimée par la Russie. En fait, on voit qu'on a plusieurs guerres et qui aboutissent à une guerre assez classique. On a eu une guerre une intervention de renversement d'un régime. C'était l'objectif de Poutine initialement, c'était de faire un peu la même chose qu'à Prague, renverser en fait le gouvernement en place pour instaurer un gouvernement ami ou en tout cas soumis, qui est un échec parce qu'ils ont sous-estimé en fait la capacité des Ukrainiens à réagir à l'agression. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié que depuis 2014, en 8 ans, ils se sont préparés en fait à cette agression. Ils savaient qu'ils allaient venir en quelque sorte, et donc ils étaient prêts à réagir. Et donc ils se sont formés, se sont équipés, même si l'asymétrie était très forte, ce qui explique la déstabilisation initiale. Mais l'impréparation des Russes dans une opération que de police, et non pas une opération vraiment militaire, les a conduits à un fiasco parce qu'ils ont affronté des forces militaires préparées. Le front s'est renversé. Les Ukrainiens ont pensé que, en faisant une offensive, ils pourraient reconquérir le territoire et même libérer les provinces qui étaient insoumises et la Crimée. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à une stabilisation. Pourquoi? Parce que ben, chacun atteint les limites de son engagement. En fait, on a une très forte asymétrie entre la Russie et l'Ukraine historiquement. Hein, il faut savoir qu'en 2021, l'Ukraine dépensait à peine 6 milliards de dollars pour sa défense. Hein, c'est très peu, c'est 10 fois moins que la France, alors que la Russie en dépensait 66 milliards. Donc 11 fois plus. Mais 11 fois plus à la hauteur de la France. Donc ce ne sont pas les États-Unis qui dépensent 800 milliards. Donc on voit ici qu'on touche du doigt les limites de la capacité de chacun des acteurs à opérer, parce que d'un côté, les Russes ont beaucoup plus de moyens, mais ils ne veulent pas accepter le fait que ce soit une guerre, parce que ça supposerait que ce soit une agression, et non pas une opération de police. Et donc on parle d'opération spéciale, qui a un peu un statut bizarre, et qui en fait contraint Vladimir Poutine, qui ne veut pas accepter que ce soit une guerre classique, il changerait la nature de son engagement politique. Et donc on voit bien même en termes de mobilisation, on a une mobilisation par des conscrits, mais qui reste très limitée. Donc en fait, la Russie limite son engagement pour ne pas donner un sens politique à cet engagement au niveau interne et au niveau international. De l'autre côté, comme je l'ai souligné, nous avons des Ukrainiens qui ont des moyens limités, mais qui sont très préparés. On peut dire que c'est un peu la même stratégie que la Suisse. L'idée, c'est de ne pas être forcément plus fort que l'adversaire, mais de l'empêcher finalement d'agir. Ce qu'ils ont très bien réussi à faire dans un premier temps, et bien sûr avec une aide massive en fait des pays occidentaux, qui est un élément déterminant, parce qu'en fait, on a une guerre par procuration en quelque sorte. Il faut garder en tête que les États-Unis ont aujourd'hui dépensé plus de 60 milliards de dollars d'aide militaire et économique à l'Ukraine. Donc en fait, on voit ici qu'il y a un effet d'équilibrage entre une puissance russe qui ne veut pas complètement déployer ses moyens, même si elle a parfois menacé d'utiliser l'arme nucléaire, et une puissance ukrainienne qui est en hyper-expansion, mais soutenue à bout de bras par les Américains en particulier, les Britanniques aussi, un peu la France. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, est allé en Ukraine pour expliquer clairement qu'on allait les aider. Voilà. Toutes choses éventuelles par ailleurs. Ce qu'on constate donc, en fait, c'est que, en fait, on a eu une guerre de mouvement qui a échoué, une deuxième guerre de mouvement, et elle n'a pas absolument réussi, parce qu'en fait, on est passé d'une guerre de position. Ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer. En fait, il faut savoir que dans une guerre, quand on est en position défensive, il faut, avoir, en fait, à l'adversaire qui vous attaque, entre 5 et 7 fois plus de force pour pouvoir renverser le front. Et on voit en fait que les Russes, qui ont été dans une stratégie de mouvement, se sont heurtés en fait à une défense de position et ont eux-mêmes développé une défense de position pour préserver les provinces qu'ils avaient conquises. Donc on voit cette stabilisation d'un front finalement sur plutôt 1914 que 1939 en termes de dynamique du front. C'est pour ça que depuis en fait pratiquement 6 mois, il ne se passe plus rien. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, la dernière mention que je voudrais souligner, sans être trop long, c'est que on a un retour sur le territoire européen d'une guerre clausewitzienne. Clausewitzienne au sens d'une guerre entre États. On a eu des conflits, on a eu des opérations, des guerres internes comme en Yougoslavie, par exemple. On a eu des guerres à la frontière de l'Europe, si on peut dire, en Caucase. Mais c'était des opérations qui n'étaient pas des guerres intensives comme on peut imaginer dans la doctrine de Clausewitz, à savoir l'affrontement de deux États-nations qui veulent imposer leur volonté à l'adversaire. Les guerres en Ossétie du Sud, en Abkhazie, étaient en plus dans des zones grises. On est plutôt dans les opérations qu'on appelle de guerre hybride, où en fait on est souvent en deçà du seuil de, réellement de la guerre au sens du droit international. Or ici, on voit bien qu'on a basculé dans un retour de la guerre, ce qui est assez, qui était quelque chose qu'on pensait avoir oublié en Europe. Et c'est un changement d'échelle, parce que les guerres que l'on a pu faire, qu'on ne parlait pas des guerres, d'ailleurs, au sens juridique du terme, ce sont plutôt des opérations de police, plus ou moins, qui sont parfois de très haute intensité, mais en fait, cette haute intensité est très ponctuelle et très limitée dans l'espace. Comme tu le soulignais, on a un front de 650 km. Mais c'est un vrai front. C'est comme en 14-18. Donc, c'est une nature très différente que d'aller frapper des djihadistes ou des rebelles dans des provinces de manière ponctuelle en Afghanistan ou au Mali. Et donc, ce qui explique aussi que les modes opératoires ne sont pas du tout les mêmes. Parce que les djihadistes ont des moyens très limités. Quand on envoie des rafales au Mali, c'est facile parce qu'il n'y a pas de contre-mesure contre les avions. Alors que la défense aérienne en Ukraine a été un élément déterminant pour empêcher les Russes d'utiliser des moyens, notamment aériens. Et il faut voir, ceci explique l'intensité des morts, parce qu'en fait, on a un vrai fait. On a des gens avec des frappes d'artillerie massives. Il faut imaginer quand même que, en moyenne, il y a 7 000 obus tirés par jour pour chacun des belligérants. C'est énorme. Si on utilisait les stocks de munitions, d'obus ou de missiles à l'intensité des Russes et des Ukrainiens, la France et le Royaume-Uni, qui sont pourtant les plus grandes puissances en Europe en termes militaires, auraient un stock qui diminuerait entre 1 semaine et 2 semaines. Donc on ne tiendrait pas longtemps. Donc on voit ici qu'on a un changement d'échelle qui explique aussi le nombre de victimes. Alors, parce que en plus, on a un problème, c'est qu'il y a des combats urbains. Et les combats urbains, la distinction entre les civils et les militaires est problématique. Et malheureusement, les doctrines russes ne sont pas les doctrines françaises, hein, en termes de dommages collatéraux, comme on dit. Ce qui est très, très problématique, qui explique aussi les victimes civiles. On a des intensités de combat qu'on ne connaissait pas. L'université de Chala a fait un répertoire des conflits. Et en fait, depuis 1990 jusqu'à l'année dernière, la plupart des morts étaient dans des guerres internes aux États. Soit des effets de débordement, par exemple, comme le Rwanda par rapport à l'Ouganda, par rapport à la
RDC.
République démocratique du Congo. Mais en fait, ça reste des conflits internes qui débordent entre les États. Ici, on a un retour au conflit avec les États sur une échelle très importante. Ah, donc ici, on a un vrai problème de guerre classique pour deux acteurs qui n'étaient pas préparés en fait à faire cette guerre, avec un front qui est devenu un peu gelé, même s'il est très chaud, si on peut dire, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités militaires. Mais en fait, plus personne n'est capable de vraiment avancer. Quand l'Ukraine fait des communiqués pour dire qu'ils ont conquis un village, ça montre la mesure de la rigidification en fait, de la zone de conflit. Donc, ça pose un vrai défi aujourd'hui parce que c'est mort comment on va pouvoir en sortir, mais on en parlera après.
Merci. Delphine.
Alors, bah, du coup, moi, je vais m'attarder un petit peu plus sur les aspects macroscopiques pour venir en complément de ce que vient de dire Renaud et pour coller un peu finalement avec le titre, je me rends compte. On s'est posé la question, est-ce que c'est une onde de choc mondiale? Et j'aimerais revenir en fait sur deux dimensions, la dimension mondiale et puis la dimension qui peut-être nous concerne de plus près, qui est la dimension européenne. Alors, sur le plan de d'abord de la dimension mondiale, c'est effectivement une onde de choc importante et à plusieurs titres. D'abord parce que très rapidement, après le début de la guerre, on voit réapparaître que des crimes de guerre qui sont en fait une question posée à la communauté internationale, et notamment à la Cour pénale internationale, comme tous les grands conflits des années 90 et 2000, on pense au Rwanda, on pense également à la Yougoslavie. Donc ça, c'est une première préoccupation qui refait surface en réalité, dans l'ordre international, même si elle n'a jamais complètement disparu. La deuxième conséquence très importante pour l'ordre international, c'est que très vite, la guerre, puisqu'elle oppose une des puissances qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, avec un autre pays, va gripper complètement un système qui ne fonctionne déjà pas très bien. C'est-à-dire qu'on a déjà un Conseil de sécurité qui, avant la guerre en Ukraine, fonctionne assez mal, avec une Chine et une Russie qui n'ont pas de difficulté à opposer un veto à toutes les décisions qui ne vont pas dans le sens de leurs intérêts depuis le milieu des années 2000. Mais en réalité, là, le problème qui va se poser, c'est que comment peut-on soumettre au Conseil de sécurité le cas de ce conflit armé, alors même que c'est de son ressort, que de sa compétence, que de faire la paix internationale, c'est d'arrêter la guerre. Comment peut-on lui soumettre ce cas quand on a une des parties prenantes au conflit qui a un droit de veto et qu'on n'a pas en fait de règles spécifiques dans la Charte des Nations Unies qui permettaient de prendre des décisions en mettant la Russie de côté? Ça, c'est un deuxième problème qui montre combien l'Organisation des Nations Unies s'était déjà fragilisée dans son fonctionnement de par le statut inégalitaire de ses membres, est encore plus grippée puisqu'elle l'était déjà et n'arrive pas du coup à jouer le rôle qu'elle devrait jouer. Le troisième élément d'ordre mondial, c'est le vote en fait, les deux votes qui ont eu lieu en mars 2022 et en septembre 2022 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors peut-être que vous savez que l'Assemblée générale vote aussi des résolutions, c'est le même mot que pour le Conseil de sécurité. La différence, c'est la portée juridique en fait de ces documents. Dans le cas du Conseil de sécurité, les résolutions sont exécutoires, ça veut dire qu'on est obligé de les mettre en œuvre. Dans le cas de l'Assemblée générale, elles ont une portée qui est beaucoup plus politique. C'est-à-dire que les pays qui sont visés en fait par les résolutions peuvent très bien s'afficher. Ça a été le cas plusieurs fois dans les résolutions adressées à différents pays africains ou même, s'il y a eu une vingtaine d'années, si je me souviens bien, à l'État d'Israël lors de la construction du mur. Israël n'avait pas détruit son mur malgré le vote de la résolution. Mais ce qui est très intéressant dans le cas des deux votes là, en septembre, en mars et en septembre 2022, c'est que ça montre en fait qu'on a une vision du conflit en Ukraine qui n'est pas partagée par, de la même façon par tous les acteurs de la communauté internationale. Et plus précisément, on se rend compte à ces moments-là, et c'est vrai aujourd'hui, ou ça perdure aujourd'hui, que la vision occidentale du conflit, c'est pas celle qui est dominante. C'est pas la seule en réalité, puisque beaucoup de pays africains se sont abstenus. Et on a aussi montré que finalement, cette vision de qui est l'agresseur et qui est l'agressé, elle n'est pas forcément partagée de la même façon par tous les États. Donc ça pose de réelles questions finalement sur la définition, la renégociation de l'ordre mondial par un certain nombre de pays qui en fait souhaitent rebattre les cartes assez clairement. Et on le voit notamment actuellement avec des puissances comme la Chine, qui essaye, y compris dans ce qui se passe au Proche-Orient, de se positionner comme un médiateur. L'Iran également, qui a un rôle extrêmement complexe et extrêmement dangereux, mais qui a pour but la déstabilisation de l'ordre international. Et donc tout ça, en fait, c'est un chantier ouvert par la guerre en Ukraine pour les puissances qu'on appelle les individus. Donc ça, c'est la dimension macroscopique mondiale. Sur la dimension européenne, cette guerre, elle a aussi des conséquences très importantes, en au moins trois ordres. D'abord, d'ordre diplomatique, que qu'on a découvert que la guerre était posée sur le continent européen, aux frontières de l'Union européenne, et ça a été une telle onde de choc que ça a permis aux Européens d'adopter très vite des paquets de sanctions très nombreux, pour mettre en combien de sanctions, sanctions qui sont toujours adoptées à l'unanimité, ce qui n'est pas forcément évident quand on fait référence en fait aux sanctions adoptées à l'encontre de la Russie après 2014, n'étaient pas toujours adoptées justement faute de cette unanimité. Donc là, le choc est suffisamment grand pour dire oui, là il faut faire quelque chose en fait. Pour adopter des sanctions contre la Russie. Toujours dans la perspective diplomatique, ça ouvre aussi finalement une discussion qui devient de plus en plus rapide, voire un peu anticipée, sur les perspectives d'adhésion d'Ukraine. Évidemment, on n'a pas donné de calendrier, puisque les États européens ne sont pas forcément d'accord entre eux sur cette question, mais enfin, ça y est, c'est posé sur la table. L'horizon de l'Ukraine, il est européen. C'est pas encore à quel terme, évidemment. D'abord que le conflit soit terminé, mais l'horizon de l'Ukraine, il est européen et il est très probablement otanien. Et là, c'est le sommet de Vilnius en juillet dernier. Autre conséquence importante pour nous, Européens, et pour nous, citoyens de l'Union européenne, dans notre vie quotidienne, la conséquence énergétique. Vous savez qu'avant la guerre en Ukraine, nos importations de matières premières énergétiques étaient très largement, en fait, dépendantes des matériaux russes. Et en l'espace de 18 mois, on a quand même réussi à réduire notre dépendance énergétique à la Russie, non pas à zéro, c'est illusoire, mais à la réduire très drastiquement. Pour vous donner quelques chiffres que j'ai trouvés dans un rapport publié la semaine dernière par la Fondation Souval, qui a fait une petite étude très intéressante que je vous encourage à lire sur où en est la souveraineté européenne après le sommet de Versailles, donc 18 mois après le sommet de Versailles. Eh bien, dans ce document, on trouve en fait quelques chiffres intéressants. Pour vous donner le cas du gaz, on était en 2022, au moment du début de la guerre en Ukraine, à 50% d'importation de gaz russe. On est passé aujourd'hui à 6%. Vous voyez que finalement, on y arrive. Sur le charbon, on importait non, je crois que je l'ai
Non,
pas.
non.
Sur le charbon, on importait 46% de nos besoins en charbon de Russie, on est passé à 0%. Et sur le pétrole, on importait 27%, on est passé à 6%. Donc vous voyez qu'il y a un effort, un réel effort européen. Il n'a pas toujours appuyé au regard de certaines critiques, mais il y a un réel effort européen en la matière. Et puis, le dernier élément, pour ne pas être trop long, ça a des conséquences sur la sécurité et la défense européenne. Et on pourrait y venir en détail, mais ça a en particulier une conséquence que moi, je trouve très positive pour le coup, c'est que ça a permis à la défense européenne de faire un certain nombre d'avancées qui étaient en fait dans les tiroirs depuis une dizaine d'années et qui, du fait de la guerre en Ukraine, sont devenues des nécessités. Et là, je vous donne un exemple en particulier, c'est l'adoption d'un instrument financé par le budget européen qui permettra aux pays d'acheter en commun des munitions et d'acquérir en commun de l'armement. Et ces instruments, c'est des noms un peu particuliers, notamment l'instrument EDIRPA, qui a entré en vigueur, me semble, la semaine dernière, et l'autre instrument, c'est ASAP, qui est le plan, en fait, qui permet, en fait, de financer l'acquisition de munitions en commun. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est un budget commission. C'est pas les États, en fait. C'est bien un budget de la Commission européenne. Alors, à hauteur de, respectivement, 300 milliards pour le premier, 300 millions, pardon, pour le premier instrument et 200 millions pour le second instrument. Donc, moi, je trouve que c'est, malgré tout, une avancée qui est assez intéressante.
Merci beaucoup. Donc, premier temps de questions. Vous pouvez essayer de faire des questions ou des interventions pas trop longues. Et on en prend, comme d'habitude, on en prend plusieurs. Et ensuite, on redonne la parole à nos spécialistes.
L'Européen se félicite d'avoir aidé fortement leur dépendance aux produits énergétiques russes, mais est-ce que ce n'est pas un peu illusoire aussi, quand on sait qu'une partie du gaz russe est vendue par l'Azerbaïdjan et que le pétrole est vendu par l'Inde?
Sur l'évolution du conflit, est-ce que la mise en place ou l'arrivée des nouveaux avions, des F-16 américains ou d'autres types d'avions, aura une incidence sur l'évolution du conflit?
Oui, il faut quand même souligner à quel point la Russie a un problème avec la reconnaissance de ses frontières méridionales et occidentales, parce que plutôt ce voisin a un problème, car elle n'occupe pas que le Donbass et la Crimée, il faut quand même rappeler qu'elle occupe aussi, au regard du droit international du moins, la Transnistrie, qui est un morceau de la Moldavie, hein, qui est sur la rive orientale du Dniepr, et puis le Ossétie du Sud, qui est un morceau de la regard du droit international de la Géorgie, ainsi que l'Abkhazie, qui est également une province. Hein, donc la Russie occupe deux provinces au regard du droit international, deux provinces de la Géorgie et une province de la Moldavie. Et ça fait hurler un peu plus les Géorgiens ces derniers jours, car il apparaît que la marine russe ne se sent plus en sécurité à Sébastopol et qu'elle envisage de transférer le gros de ses installations navales militaires en Abkhazie, donc qui regarde pour l'attachement des parties de la Géorgie. Hein, le problème est bien plus vaste encore que la solution.
Bonsoir. Quelle va être, à votre avis, l'incidence du conflit israélo-palestinien sur le conflit russo-ukrainien? développement international.
Voilà, on reviendra peut-être dans la troisième question.
Est-ce que vous pourriez développer un petit peu la déstabilisation de l'ordre international qui vient justement de la Russie en abordant la déstabilisation en Afrique, déstabilisation aussi peut-être au Moyen-Orient et puis même via les ingérences dans les élections en Europe, est-ce qu'il y a des tentatives avérées de déstabilisation de l'Europe même?
Il y a encore des gens qui s'aiment, ils ne s'aiment pas. Donc, qui veut commencer à répondre?
Il va commencer à répondre. Sur les sanctions économiques, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Parce qu'en fait, on peut sanctionner un pays, mais on peut contourner les sanctions en passant par un autre pays qui est complice, en quelque sorte. Et donc, on voit bien, là, il y a des gens qui ont travaillé sur la question des sanctions. Elles sont souvent peu efficaces dans le temps, parce que les sanctions durent dans le temps, plus on s'adapte. Et donc, de différentes manières, hein, les Russes se sont adaptés pour remplacer des produits occidentaux par des produits chinois ou des produits russes. Et puis, ils ont trouvé une solution pour exporter essentiellement du pétrole par l'Inde, parce que les Indiens sont très contents, ils transforment le pétrole, ils le réexportent, c'est du pétrole indien. Donc, ici, en fait, il y a une pénalité pour les Russes quand même, parce qu'il y a une décote pour la valeur des produits qu'ils exportent. Donc, en fait, ils bradent leurs produits. Mais il est très compliqué de convaincre l'ensemble de la communauté internationale de respecter les sanctions. C'est extrêmement rare. Donc, historiquement, je pense qu'il n'y a pratiquement aucun exemple. Peut-être avec la Corée du Nord et encore, les Chinois travaillent beaucoup avec eux. Voilà. Pour répondre à la question sur les F-16, la question, c'est savoir si un pays peut reprendre le contrôle de l'espace aérien. En fait, les Ukrainiens n'ont pas la capacité de s'imposer face aux Russes parce qu'ils n'ont pas des avions aussi performants. Et historiquement, ils ont que des anciens avions russes, essentiellement. Et par contre, ils se sont bien dotés en missiles anti-aériens, ce qui a permis en fait, de chasser en fait, de l'espace aérien les Russes. L'objectif aujourd'hui, c'est de reprendre la main avec des F-16 qui sont capables de plus facilement pénétrer les défenses adverses, de détruire les systèmes de défense aérienne russes pour pouvoir prendre le contrôle de l'espace aérien. C'est l'objectif en fait, avec les F-16. Ce qui n'est pas possible de faire avec des demi qui sont un peu désuets, même si on a pu les adapter de manière assez fabuleuse.
Alors, du coup, pour essayer de compléter, répondre un peu aux autres questions, et notamment sur la question de la déstabilisation de l'ordre mondial, effectivement, on voit qu'en fait, avec l'ouverture de ce conflit, la Russie vient prolonger une pratique qui était déjà la sienne, hein, depuis 2014, en réalité, depuis bien avant, à travers des tentatives de déstabilisation, c'est ce qu'on appelle en fait les menaces hybrides, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la guerre, mais on est beaucoup dans de la désinformation. Pour le coup, la Russie a acquis une véritable compétence en matière de désinformation et de propagation de fake news. Et c'est en partie ce qui s'est passé en fait au Mali. C'est la raison qui explique pourquoi au Mali, Wagner a si facilement pu mettre dehors l'armée française. Et il était impliqué depuis une bonne dizaine d'années. Et en fait, je me souviens d'une anecdote qui a été rapportée par un étudiant que j'avais lu. Alors, il s'agissait d'un étudiant qui était à la fois colonel dans l'armée malienne et qui suivait ses études dans mon master à distance à Grenoble. Et déjà, il y a 6 ans de ça, m'avait dit, vous savez, moi, j'entends, je vois passer un certain nombre d'informations qui sont fausses, mais qui ont beaucoup d'aura, en fait, dans la population malienne, qui vont, en fait, à l'encontre de ce que font les Français et qui sont, à coup sûr, propagées par les Russes. C'est pas du tout nouveau. Et le problème, c'est que c'est un discours qui a désormais hybride, puisque la majorité des anciennes colonies des pays européens se sont désolidarisées de la posture politique qui était celle de leurs anciens colonisateurs. Et ça se voit très bien à travers le vote à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est-à-dire que là, on aurait attendu, peut-être un peu naïvement, qu'il y ait une forme de bloc contre l'agresseur, en fait, beaucoup de pays, notamment africains, ne voient pas du tout les choses de cette façon et ne voient pas, en fait, du coup, ces tentatives de déstabilisation comme de la déstabilisation. Ils le voient comme de l'information. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'alors, sur le Moyen-Orient, là, pour le coup, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir vous dire, mais effectivement, on a entendu parler ces derniers jours aussi de tentatives de déstabilisation russe. De là à avoir des connexions, là, je m'aventurerai pas là-dessus parce que j'ai pas suffisamment d'éléments pour ça. Mais sur l'Europe, c'est très clair, en fait. C'est très clair que sur chaque élection européenne d'ampleur, on a toujours des risques, et on a toujours, d'ailleurs, une prévention qui se passe à la fois au niveau national et au niveau européen, des risques de déstabilisation. Et ça sera en particulier vrai pour les élections européennes, qui auront lieu en juin. Déjà, les élections européennes de 2019 avaient fait l'objet d'une attention extrêmement, soutenue par les institutions européennes qui avaient mis en place un certain nombre de scénarios visant à contrer justement les risques de déstabilisation issue de Russie. Et je pense que ça sera encore plus vrai en fait pour les prochaines élections.
Oui, il me semble qu'il y a une question auxquelles on n'a pas vraiment répondu. Peut-être en prolongeant un peu la question de Jean-Paul Vienne sur les frontières de la Russie qui bougent. Est-ce que au fond, qu'est-ce qu'on ça sera peut-être une transition d'ailleurs avec la suite, mais quels sont, voilà, on a connu depuis 15 ans, 20 ans, des percées, on va dire, des conquêtes, en tout cas, de territoires de la Russie chez ses voisins, de la déstabilisation et des conquêtes de territoires en Moldavie, en Géorgie notamment. Donc, au fond, est-ce que c'est une stratégie, et maintenant en Ukraine, est-ce que c'est une stratégie qui est appelée à se développer aussi ailleurs? Est-ce que, au fond, est-ce qu'on peut dire des choses là-dessus?
Sur les frontières, ça reflète en fait ce que disait Delphine aussi sur les institutions internationales. On a pris pour acquis en 1990 que on avait une fin d'histoire. Hein, c'est Francis Fukuyama qui avait lancé ce slogan en disant bien, les institutions démocratiques, l'ordre international s'est imposé. On n'aura pas de contestataire en fait de cet ordre international. Et en fait, on voit tout l'opposé aujourd'hui. Delphine le mentionnait, on parle de puissance contestataire parce qu'elle refuse les règles du jeu qui ont été posées en 1945. Et ces règles du jeu ont été posées pas de manière complètement objective. Ce ne sont pas des principes. Ce sont bien un équilibre. Hein. Si on a des droits de veto des grandes puissances au Conseil de sécurité, c'est que les grandes puissances voulaient avoir le contrôle et ne pas avoir d'opposition. Hein. C'est pour ça que les Russes ont accepté la charte de San Francisco. Donc ici, on a un problème, c'est que en termes de règles, on a un affaiblissement en fait des institutions internationales. Et les frontières, monsieur, c'est ce problème-là. En fait, en 1945, en gros, on a figé les frontières, en théorie. Lors de la décolonisation, on a dit qu'il faut surtout pas toucher les frontières parce que sinon, ça va créer beaucoup plus de problèmes de conflits qu'autre chose. Mais au final, on voit bien que ces frontières ne sont pas acceptées, surtout que la Russie considère que les frontières de 1991 sont des frontières qui ont été imposées par l'implosion de l'URSS. Et n'ont pas choisi par rapport à un projet, puisqu'en fait, ces frontières internes à l'URSS sont des frontières purement théoriques, en quelque sorte, par rapport, à part peut-être pour l'Ukraine, paradoxalement, puisque c'est Staline qui avait imposé que l'Ukraine soit membre des Nations Unies, paradoxe par rapport à l'URSS qui était elle-même représentée. Ici, donc, on a un délitement des institutions internationales qui est un problème et qui teste les limites des grands acteurs à stabiliser le système. En fait, de 1945 à 1990, la Russie, l'URSS et les États-Unis ont stabilisé le système. En 1990, les États-Unis ont repris la main, en quelque sorte, en étant en hyperpuissance, puisqu'à l'époque, ils dépensaient plus de la moitié des dépenses militaires mondiales à eux seuls. Plus de la moitié. Aujourd'hui, c'est encore 42%. Donc mais malgré tout, en fait, eh bien, on voit que la capacité des Américains à s'engager après l'Afghanistan, qui était un démonstrateur en quelque sorte de leur incapacité à gérer un petit pays. Hein, l'Afghanistan, c'est quoi, 25 millions d'habitants? C'est rien. Hein, je veux dire, et pourtant, ils n'ont pas réussi à gagner cette guerre. Ils l'ont perdue, de facto. Et donc ça donne des signaux très, très négatifs pour les institutions internationales parce que ces institutions sont considérées, et le vote évoqué Delphine sur les Nations Unies, de non-condamnation de la Russie, reflète le fait que, en fait, les pays du Sud considèrent qu'on a des règles iniques parce qu'en fait, elles servent nos intérêts, surtout les intérêts américains, et que lorsqu'il y a des guerres ailleurs, on ne porte pas la même attention. Hein, pensez à d'autres guerres qui ont pu exister au cours des 20 ou 30 dernières années, qui n'ont pas subi la même condamnation par les pays occidentaux. Et donc, il n'y a pas de raison qu'eux considèrent qu'une guerre qui a lieu chez eux ait moins de valeur qu'une guerre qui a lieu en Ukraine. Donc ici, on voit que d'un côté, les gens ne croient plus aux institutions, et de l'autre, ils constatent que l'hyperpuissance américaine n'est pas capable de tenir en fait ces institutions. Donc ça ouvre la porte à un monde qui est très incertain, parce que par définition, et bien d'un côté, on a un aventurisme, et Poutine est un aventurier, dans le mauvais sens du terme. Hein, donc il teste en fait les limites des réactions. Il est dans des logiques de guerre hybride en deçà du seuil de la guerre au sens précis du terme, voire jusqu'où il peut pousser le bouchon, en quelque sorte. Le problème, c'est que ça donne des idées à d'autres. Et quand on sait que les États-Unis ne sont pas capables d'accompagner, je pense que l'attaque du Hamas face à Israël est un bon exemple. C'est parce qu'ils se disent, mais les Américains ne vont pas réagir. Ils ne réagiront pas au niveau qu'on pourrait attendre. Donc, tentons l'aventure. Là encore, on peut citer l'Iran également, au Yémen ou en Syrie. On voit bien ici que, y a en fait un rétrécissement de l'ordre de droit international qui ouvre la porte à des aventuriers, mais aussi à des gens qui ont peur. Et aujourd'hui, on n'a jamais dépensé autant pour la défense depuis la Seconde Guerre mondiale. Jamais autant. Plus de 2 200 milliards de dollars. C'est gigantesque. Alors, par rapport à l'économie mondiale, ce n'est pas forcément si gigantesque que ça, mais néanmoins, ça reflète. On a pratiquement doublé en monnaie constante par rapport à 1996 les dépenses militaires mondiales. On dépense de quoi plus? Alors, j'ai pris 1996 que c'est le point le plus bas d'après-guerre froide parce que c'est la fin des baisses en Union soviétique et dans l'OTAN. Mais on voit bien ici qu'on a un monde qui est devenu dangereux parce qu'il n'y a plus de règles. Donc l'absence de règles fait que les gens ont peur et on n'a plus du tout de production de paix. En fait, l'ONU a été faite pour viser la Charte des Nations Unies. L'objectif, c'est de bannir la guerre. Hein, et c'est pour ça qu'il y a un Conseil de sécurité, parce qu'il est là pour reprendre la main quand une crise se produit, pour imposer des décisions. Hein, c'est ça les résolutions du Conseil de sécurité. C'est arrêter les conflits. Or, aujourd'hui, le Conseil de sécurité est bloqué, les gens ne croient plus aux institutions, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arment. Ils s'arment parce qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est chrysogène, parce que, bien sûr, l'anxiété produit l'anxiété, et il y a un effet d'entraînement qui est problématique. Et ça fait des raidissements. On voit bien d'un côté des Américains qui cherchent à trouver des alliés. L'alliance AUKUS, on a peut-être entendu parler avec le Royaume-Uni et l'Australie, c'est un moyen en fait de s'armer contre la Chine, parce que les Américains ont peur de la montée de la puissance chinoise. Et les Chinois, avec les BRICS, que tu évoquais, eh bien aussi cherchent à faire une alliance, qui est compliquée parce que les intérêts sont beaucoup plus hétérogènes. Mais on voit ici que on a une sorte de raidissement du monde où la paix était vraiment en danger, et même l'économie. Parce qu'en fait, on a pendant 30 ans une mondialisation qui a fait des chaînes de valeur qui sont extrêmement internationalisées. Hein, aujourd'hui, vous avez des produits qui font 10 fois le tour du monde, hein, en fait, quand on les fabrique. Je parle tout de suite de vêtements. Hein. Si on tourne les voitures, c'est encore plus compliqué. Or, cet ordre économique s'est fondé sur la notion de doux commerce, hein, posée par Montesquieu au XVIIIe siècle, qui est de dire que plus le commerce sera développé, les gens ont des intérêts réciproques, et moins ils se feront la guerre. Malheureusement, c'est pas vrai, puisque Poutine était très dépendant de l'Europe, enfin, on était très dépendant de l'énergie russe, mais Poutine était très dépendant de l'argent qu'on lui donnait en contrepartie, hein, faut pas se leurrer. La croissance économique russe depuis 25 ans, elle est portée que par les matières premières, donc par nos achats, très clairement. Et malgré cela, eh bien, on voit que les gens sont prêts à faire la guerre malgré tout. Le problème, c'est que le fonctionnement de nos économies repose justement sur cette mondialisation. Et donc aujourd'hui, eh bien, on est bien embêté parce que, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique civile, eh bien, la fabrication de produits en titane, c'était fait avec des éponges, c'est un produit de transformation en fait du minerai. Donc 80% était fait entre la Russie et l'Ukraine. Donc on voit ici qu'on crée des dépendances. Il y a d'autres domaines dans lesquels on a créé de très fortes dépendances. Elles sont liées aussi à des questions de coût, parce que des fois c'est beaucoup moins cher, donc on a produit plutôt là. Hein. En fait, terres rares, on produit beaucoup de terres rares en Chine parce que c'est beaucoup plus rentable. Mais il a fallu 10 ans pour qu'on se sorte de cette dépendance. On est passé de 90% de dépendance à 60% avec le développement d'Australie, par exemple. Mais on voit ici que cette situation de tension, des conséquences internationales économiques sont très lourdes parce qu'on remet en question énormément de choses qui vont bien au-delà du conflit. Et avec un risque aussi d'avoir une pension sur les familles qui sont plus grandes liées aux dépenses militaires plus importantes.
Merci. Donc, on a complètement passé à la deuxième question. Oui.
Peut-être juste pour prolonger un petit peu ce que vient de dire Renaud, peut-être que je suis complètement en accord. Et pour faire un petit peu de théorie des relations internationales, en fait, on avait été jusque-là dans un monde qui était plutôt libéral, c'est-à-dire effectivement basé sur l'idée que le doux commerce apaise les mœurs et que le fait de créer des dépendances économiques entre les pays, bah, ça favorise en fait la paix. Et on se rend compte que ce monde libéral se heurte en réalité à des pratiques telles des pays qui n'ont aucun scrupule à défendre ce qu'ils considèrent comme être leurs intérêts. Et le problème se pose quand en fait, ces pays ont été fondateurs de la Charte des Nations Unies, qui est donc la base du droit international actuel, et décident en fait du jour au lendemain que ben, ce droit s'applique quand ils ont envie. Ça revient un peu au problème des frontières, à ce que disait Renaud. Donc effectivement, c'est parfois un peu ce que je débat parfois avec mes collègues juristes, qui peuvent être parfois positivistes, c'est-à-dire penser que le droit, quand il existe, s'applique. En réalité, non, mais le droit s'applique, notamment le droit international, si les États le souhaitent. Mais c'est la même chose au niveau européen. Regardez le nombre de pays européens, si on prend le cas de la Pologne, qui applique les directives européennes quand ça la chante. Et qui, en fait, se fait passer maintenant pour le bon élève de l'Union européenne, parce qu'elle a effectivement accueilli énormément de réfugiés ukrainiens, que c'est un des premiers pays donateurs d'aide militaire et financière à l'Ukraine. Ça n'empêche pas de continuer à agir contre les directives européennes et à se faire taper sur les doigts par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, vous voyez que le droit, en fait, il peut aussi être à deux vitesses, en fonction de qui l'interprète, de comment et dans quelle configuration de pouvoir.
Oui, merci pour ce complément. Le deuxième temps de nos échanges, on va se centrer sur les stratégies des différents États. Donc, dans ce conflit, au fond, qu'est-ce que chacun des deux belligérants, de leurs liens, qu'est-ce que chacun donc, des États principaux de ce conflit et autour de ce conflit, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et quelles conséquences ça a? On a commencé à parler des conséquences, mais quelles conséquences ça a sur l'ordre mondial? Et donc, je ne sais pas qui commence là.
Est-ce que tu peux mettre une dernière slide? Oui, parce
Oui.
que j'aimerais pas commencer, il faut changer le diaporama. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on se relève? Et où les indices? Juste pour illustrer.
Un vrai spécialiste.
Non, non, c'est pas ça. Alors, voilà. Vraiment ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une guerre qui est une guerre de haute intensité, qui est une intensité très forte sur un territoire très grand et dans la durée. Et donc ici, c'est une guerre que, en fait, quelque part, personne ne pourrait soutenir, même une grande puissance aujourd'hui, même les États-Unis, compte tenu de leurs moyens. Et aujourd'hui, ils s'inquiètent beaucoup parce qu'ils ont donné des stocks aux Ukrainiens, mais ils se rendent compte qu'ils ont aussi réduit leur propre capacité. Et que leur capacité de production est bien sûr beaucoup plus grande que la nôtre, mais elle est assez limitée. Donc, en fait, ici, on a en fait deux dimensions peut-être en termes de stratégie de conséquences internationales. La première, c'est il faut faire la guerre, mais ne pas la faire trop vite. Parce que sinon, en fait, on n'a plus de munitions pour la poursuivre, paradoxalement. C'était le cas d'ailleurs en 1914. Hein. En 1914, on n'avait pas assez de stock et. Au bout de 3 mois de guerre, la France et l'Allemagne ont ralenti leurs opérations simplement parce que on ne peut plus suivre. Voilà. Parce que si on commence à faire des grosses opérations et puis ensuite on s'arrête, c'est plus catastrophique que de tenir un frein. Donc on voit ici que finalement, on a un peu une logique de conflit qui risque de durer parce que par définition, chacun veut ne pas perdre, mais personne n'est prêt à non plus se mettre, donner les moyens de gagner. Alors, on ne peut pas perdre parce qu'il faut éviter de donner la capacité à la Russie de laisser penser qu'on peut faire tout n'importe quoi. Et en même temps, on ne peut pas non plus être trop agressif avec la Russie parce que c'est une puissance nucléaire. Et le risque s'est posé. Donc ici, on voit qu'on a une modération des acteurs parce que personne ne veut un enclenchement à une échelle beaucoup plus grave, hein, vraiment une troisième guerre mondiale en quelque sorte. Et vous le voyez, les Américains donnent des moyens aux Ukrainiens, mais leur disent, attention, vous n'allez pas libérer la Crimée, parce que ça risque d'enclencher une guerre nucléaire. Et de l'autre, les Russes, eh bien, on se rend compte qu'ils ont du mal à suivre, hein, comme n'importe quelle puissance, en fait, aujourd'hui, qui s'engage dans une vraie économie de guerre. Mais ils sont soutenus par les Chinois, notamment aussi les Nord-Coréens, on l'a vu dans la presse. Mais les Chinois veulent que les Russes déstabilisent la puissance américaine, mais sans enclencher une guerre. Et donc, surtout, lorsque Poutine a parlé d'utiliser de l'arme nucléaire, les premiers à dire, on va réfléchir et attendre, ce sont les Chinois. Parce qu'en fait, leur propre sécurité nationale repose sur la dissuasion nucléaire. À partir du moment où on commence à utiliser de manière tactique les armes nucléaires, on désinhibe, en fait, finalement, la possibilité d'utiliser cette arme. Et ce n'est pas forcément dans l'intérêt des Chinois. Et ont plutôt une position défensive qu'offensive du point de vue nucléaire. Donc on voit ici qu'on met en cause beaucoup de choses. Les acteurs sont prêts quand même à soutenir un effort dans la durée. Hein, je vous disais 70 milliards du côté américain d'aide, c'est quand même conséquent. Du côté européen, on a donné plus, mais beaucoup plus d'aide civile. Donc c'est difficile de vraiment proportionner. On voit donc des stratégies où chacun cherche à redéfinir la grammaire des relations internationales. Et ça, c'est problématique parce qu'on ne sait pas à quoi ça va aboutir. C'est extrêmement dangereux. On avait pensé avoir un monde plus ou moins stabilisé avec le gendarme américain. Aujourd'hui, on a un monde qui est beaucoup plus instable, qui se voit aussi dans le retrait du contrôle des armements. Hein, vous avez eu beaucoup d'accords à la fin de la guerre froide et au début de la période de post-guerre froide pour essayer de contrôler les armements, donc définir ce qu'on peut faire, comment, quelle quantité on peut avoir. Les accords START et autres, hein, que vous pouvez avoir, FMI, le problème, c'est que tout ça est parti à volo. Alors, ça avait déjà commencé avant, mais ça s'accélère. Et surtout, en fait, les gens se disent, mais si les autres ne jouent pas avec les règles du jeu, pourquoi moi je jouerais avec? Et donc ici, la tentation, on le voit, moi j'ai discuté avec un diplomate qui revenait de Corée du Sud, qui m'a dit, les Sud-Coréens se posent la question de se doter de l'arme nucléaire. Parce que c'est un moyen d'équilibrer un rapport de force défavorable. Et donc ça, c'est très dangereux. Et l'arme nucléaire est l'élément la plus visible. On voit bien qu'on a une prolifération de matériel nucléaire, parce que les gens se disent, ah ben oui, mais peut-être que des missiles antiaériens, ça peut être bien, parce qu'on a vu ce que ça donne en Ukraine, et puis l'arme nucléaire, les Russes, on les embête pas trop parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Donc on voit ici que on crée un monde extrêmement périlleux, qui va dans une logique vraiment de remilitarisation, de prolifération de moyens militaires conventionnels et peut-être non conventionnels, qui va poser, d'ailleurs, si vous avez écouté les déclarations des Israéliens, certains députés israéliens ont parlé du programme nucléaire. C'est quand même quelque chose qui n'a jamais été reconnu en fait par les Israéliens. Alors, tout le monde sait qu'ils ont l'arme nucléaire, mais personne n'a jamais officiellement acté le fait qu'ils étaient une puissance nucléaire. Un peu un état doté, quand même, pour traiter de non-prolifération. Or, là, on commence à afficher, en fait, des moyens qui étaient quand même plutôt secrets. Ça pose un vrai défi, et donc, on voit bien que, on a un monde qui devient beaucoup plus instable. C'était problématique.
Merci.
Alors, peut-être pour compléter un peu plus en focalisant sur la dimension européenne, en fait, il y a en quelque sorte deux mouvements dans la dimension européenne. D'abord, il y a un mouvement un peu collectif, comme je crois que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que très vite, on a eu des réactions assez collectives d'États, d'abord pour adopter un certain nombre de freins de sanctions, pour financer la livraison de matériel létal à l'Ukraine à travers la Facilité européenne de paix, dont le plafond a été d'ailleurs plusieurs fois revu à la hausse, pour atteindre à peu près 6 milliards d'euros aujourd'hui, rien que pour l'Ukraine. Donc ça, c'est des éléments intéressants. On a aussi adopté une boussole stratégique en mars 2022, qui est en fait un document stratégique de l'Union européenne qui était déjà en germe depuis la présidence allemande de 2020, mais qui bien sûr a été adapté, hein, au regard de la guerre en Ukraine, et dans laquelle notamment l'Union européenne souhaite mettre l'accent sur davantage de coopération dans le domaine des industries d'armement. On prend bien compte que c'est un des nerfs de la guerre aussi, disposer du matériel nécessaire et donc des capacités de produire ce matériel. De mettre en place une force de réaction rapide européenne du SAMDOM à l'horizon 2025, donc c'est demain en réalité. Et donc tout ça, c'est des mouvements collectifs. Et à côté de ces mouvements collectifs, on a aussi un certain nombre de mouvements de pays européens en ordre dispersé, notamment quand on regarde en fait comment les pays européens ont tous décidé d'augmenter leur budget de défense, tous effectivement annoncé ces intentions, mais tous ne l'ont pas fait de la même façon, de la même mesure. Et pour vous prendre peut-être juste un exemple, l'exemple de la France et de l'Allemagne, dans le cas allemand, souvenez-vous, 3 jours après le début de la guerre, le chancelier Scholz annonce qu'on est en fait un tournant, un changement d'époque, le fameux Zeitenwende. Il va annoncer la création d'un fonds spécial pour la Bundeswehr de 100 milliards, soit hors contrôle constitutionnel, donc hors frein à l'endettement, parce qu'en Allemagne, il existe en fait un système constitutionnel qui vise à limiter les risques d'endettement, se conformer au pacte de stabilité de Maastricht. Donc ce fonds y est sorti. Et donc, ce qu'annonce Scholz, c'est que d'abord, on va augmenter très drastiquement le budget militaire de l'Allemagne pour atteindre 2% à l'horizon 2025, tout en plus, pour une durée de 6 ans, ce fonds de 100 milliards d'euros. Dans le cas français, vous savez que la LPM qui vient d'être adoptée cet été a aussi assez, en fait, fait une augmentation assez importante du budget militaire français. On parle désormais de 413 milliards d'euros. C'est vraiment une augmentation très importante pour les 6 prochaines années. Mais quand on regarde, en fait, dans la réalité de ces augmentations, la France, alors, prenons pour une phrase sur les chiffres, hein, s'ils ne sont pas bons, je crois qu'on est à 1,9% de notre PIB pour la défense en 2023. Quand vous regardez les chiffres allemands, on est très loin des 2%, même avec les fameux 100 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on est actuellement autour de 1,4% du PIB allemand dédié à la défense. Et que si on voulait vraiment arriver aux 2%, vous donnez en fait un chiffre un peu brut, l'Allemagne, je crois qu'elle est autour de 75 milliards d'euros en ce moment, le budget de défense, convaincu. Je ne sais plus le chiffre de la perfecte.
Plutôt 60.
Plutôt 60. Ouais. Et en fait, si on voulait arriver à 2%, il faudrait 85 milliards. Et il faudrait que le fonds soit pérennisé au-delà des 6 ans, des 5 ans, pardon, sur lesquels il est prévu. Donc, vous voyez, rien que sur l'aspect budgétaire, on a un investissement en ordre dispersé. Alors, sur les autres aspects, c'est aussi en ordre dispersé, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont beaucoup fait parler dans les journaux à l'automne dernier, et notamment parmi ces choses, vous avez sans doute entendu parler de l'initiative de défense antiaérienne lancée par l'Allemagne, il y a à peu près un an, sans consultation avec la France, alors même qu'on a tout un réseau institutionnel de consultations qui existe depuis le traité de l'Élysée, donc depuis 1963, donc on avait tout pour se consulter. Et l'Allemagne a décidé en fait de mettre en œuvre, de proposer à ses partenaires de l'OTAN de mettre en œuvre un système de défense antiaérienne pour lequel ils souhaitent acquérir du matériel qui n'est pas européen. Et alors même que la France et l'Italie développent depuis plusieurs années un système de défense antiaérienne qui est européen. Donc là encore, ça nous montre bien qu'on a aussi dans la précipitation un certain nombre de mouvements qui ne bénéficient pas finalement au collectif. C'est un peu ce que disait Renaud. On cherche à fermer vite, donc on va en fait comparer au plus pressé, donc on va acheter sur étagère parce que c'est disponible, parce qu'éventuellement ça peut être moins cher, mais du coup, bah, ça ne bénéficie pas du tout au réflexe collectif qui pourtant est le réflexe que les Européens avaient adopté dans la fameuse boussole stratégique en disant il faut davantage coopérer pour créer ensemble de l'armement à l'avenir. De la même façon, quand on regarde un petit peu la réalité de la logistique militaire, et de qui, en fait, coordonne tout ça, il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'OTAN. En fait, finalement, ce que Poutine a fait, c'est qu'il a donné un énorme coup de pouce et une garantie de vie à l'OTAN, là où finalement, l'OTAN pouvait être remise en cause sur son utilité. Là, Poutine vient de donner la garantie pour les 30 prochaines années. Et c'est d'autant plus vrai que les pays européens qui étaient neutres jusque-là, Suède et la Finlande choisit d'adhérer non pas à la clause de solidarité, la clause de défense mutuelle de l'Union européenne, il est protégé tout aussi bien que ça, c'est ça, du traité de Washington, mais il décide d'adhérer à l'OTAN. Ça, c'est extrêmement symptomatique, finalement, de la difficulté à coaliser les États, même face à une crise. C'est-à-dire qu'au-delà des premiers échecs un peu communs, en réalité, face à la crise, mais je pense qu'on l'a vu aussi, Alors peut-être de façon un peu moins marquée, mais pendant la pandémie de Covid. Au-delà des premiers réflexes communs, en réalité, face à une crise, les États ont tendance à se replier sur des réflexes nationaux qui sont d'autant plus alimentés facilement qu'un certain nombre de partis populistes distillent en fait un euroscepticisme qui redevient finalement de bon temps en disant, ben, vous voyez, l'Union européenne ne les protège pas, donc misons sur nos propres forces. C'est un petit peu la stratégie du Parti Slovaque, par exemple. La bonne nouvelle, quand même, dans tout ça, c'est qu'hier, il y a eu des élections en Pologne, que tout le monde donnait le Parti conservateur qui est au pouvoir gagnant à haute main. Et ben, en fait, ce ne sera pas si simple que ça, puisque le Parti libéral arrive en seconde position. Je crois que le Parti conservateur est autour de 36%, le Parti libéral un peu moins de 32%. Il veut dire que dans les prochaines années, ben, il est fort possible que la Pologne ait un gouvernement de coalition qui soit un peu plus enclin à respecter les règles collectives européennes.
Alors, dans le deuxième temps de questions sur une stratégie des États dans ce conflit et leurs conséquences internationales, donc la parole est à qui la demande.
Oui, merci. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez par rapport au droit, notamment le fait que les pays sanctionnaient M. Poutine, mais qui reste. C'est vrai que ça n'a pas de sens qu'on priorité.
Alors, en fait, le problème de c'est que sa juridiction ne peut s'appliquer que. Alors, il y a deux cas. Soit si les États sont partis au traité, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu l'existence de la Cour pénale internationale, que la Russie n'a pas fait. C'est important de signaler que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité non plus. Parce que sinon, Bush serait actuellement poursuivi en réalité devant la CPI. Ça, c'est une première condition. Pour passer par-dessus cette condition, il y a une autre possibilité, c'est que le Conseil de sécurité, justement, saisissent la Cour pénale internationale. Mais encore une fois, il faut qu'il n'y ait pas de veto dans l'ordre permanent. Donc, on se doute bien que l'ambassadeur russe qui représente la Russie à New York n'a absolument pas, en fait, se désolidariser avec Poutine, sinon c'est lui qui perd la vie, en réalité. Donc, voilà pourquoi c'est le type d'institution qui est très vite, en fait, vidée de sa substance, parce que les États peuvent très bien ne pas participer. Bien, tout simplement, ne pas reconnaître cette juridiction. Ça ne veut pas dire. Il y a actuellement, l'ONU a dépêché un certain nombre d'enquêtes pour justement documenter ces crimes de guerre. Que si jamais, dans quelques années, la Russie change de dirigeant, ce qui pourrait bien arriver, Poutine n'est pas éternel, il est âgé. Peut-être que dans un autre monde, un peu plus amical, la Russie ratifiera le traité de Rome. On ne sait jamais, en fait, c'est tout. Et donc, à ce moment-là, ce serait intéressant de pouvoir justement inculper un certain nombre de personnes qui se sont rendues coupables d'exactions. L'état actuel des choses,
c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Augusto Pinochet, par exemple, qui bénéficiait d'une immunité, qui finalement, le changement des règles au Chili ont permis de lever son immunité, il a été poursuivi. Mais de toute façon, en droit international, il n'y a pas d'autorité supranationale. Ce ne sont que les règles que les États décident entre eux. Et donc, par définition, s'ils ne respectent pas les règles, le droit ne vaut que par l'accord des parties et la confiance que l'on a dans les parties. C'est pour ça que même Delphine évoquait l'OTAN, les pays de la Baltique, la Pologne, sont très très confiants dans l'aide américaine en cas de problème, mais ils sont d'autant plus confiants qu'il y aura des bases américaines avec des soldats américains qui potentiellement seront tués en cas d'agression. Parce qu'ils savent très bien que on n'est jamais sûr, et Trump l'avait dit, hein. Si vous ne dépensez pas au moins 2% du PIB dans la dépense, eh bien, on ne va pas vous sauver. Alors, en dépit du traité international qui est l'Alliance Atlantique. Donc, ici, en fait, les Polonais ont très bien compris, mais on ouvre une base, le port Trump, hein, comme ils ont dit, parce que, en fait, ils savent très bien que s'il y a des morts américains, le pouvoir ne pourra pas se défausser, il sera obligé de s'engager. Donc, ça veut dire le niveau de confiance qui existe entre les États, hein, cet exemple.
Allô, je ne sais pas si on m'entend.
Je suis revenu sur l'aspect militaire et aller un peu au-delà de l'aide, que ce soit en Ukraine, avec les problèmes qu'ils ont affrontés, que ce soit en Europe. On ne fait pas la guerre avec de l'argent seulement. Vous connaissez peut-être la phrase du « comme doit tirer Monte Cuculi », n'est-ce pas, j'ai besoin de trois choses pour faire la guerre, de l'argent et de l'argent. Mais il faut bien un moment que ça serve à acheter non seulement des armes, mais des êtres humains. On voit très bien qu'en Ukraine, une société fondée sur l'autonomie individuelle et personnelle, fondée sur une forme de patriotisme, avec des armes à la fois anciennes et en même temps modernes, a abouti à un résultat que personne ne voyait. Et si on transpose ça à l'Europe, quand on voit par exemple qu'en France l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus, je crois que c'est cette année, l'armée française, l'armée de terre, ne recrutera, manque son résultat de recrutement de 3 000 hommes, hein, on peut se poser des questions. Les chefs allemands mettent 100 milliards sur la table, on peut poser la question, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Peut-être acheter américain, ça c'est pas grave, ou coréen, je ne sais pas quoi, mais avec qui et avec quoi? Parce que quand on voit l'état de la Bundeswehr, c'est plus qu'inquiétant. Autrement dit, il y a toute une, pour faire une armée, il faut une dizaine d'années environ, et voire plus. Et donc, c'est cet aspect-là, si vous voulez, au-delà des chiffres économiques, des chiffres financiers, qui sont évidemment capitaux et importants, il y a ce qu'on pourrait appeler une culture militaire qui a été, depuis une trentaine d'années, en déshérence. Hein. Je pourrais donner d'autres exemples. Les Néerlandais n'ont plus d'unités blindées depuis un certain nombre d'années, puisque c'est une division germano-néerlandaise dont siège est à Münster, etc. Enfin, je pourrais donner la même chose pour la Belgique dans d'autres domaines. Donc ça me paraît au moins aussi inquiétant, si vous voulez, que le strict aspect financier des choses. Voilà, un aspect, je dirais, humain, au sens large. Voilà.
Les moyens ne sont pas défendre. Et le problème, c'est que, d'ailleurs, on le voit, des pays qui dépendent beaucoup pour leur défense, l'Arabie Saoudite, ont été attaqués par les Irakiens dans la deuxième guerre du Golfe. Bon, c'est un entre-mou, parce que par définition, ils sont vraiment des mercenaires. En fait, dans leur armée, les gens ne peuvent pas mourir, hein. C'est le cas des contre-intérêts. Les contre-intérêts ne se battaient pas fortement, parce qu'ils ne veulent pas gagner la guerre, ils ne veulent pas perdre leurs troupes. Donc, c'est là comme ça que ça peut fonctionner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a arrêté de prendre les contre-intérêts. Ce que vous souhaitez est un point important, c'est est-ce qu'on est prêt à mourir ou on est prêt à devenir rouge? Plutôt rouge que mort, hein, la fameuse phrase des années 80. Le problème, c'est que ça suppose la défense est une organisation avant d'être des moyens. Les Ukrainiens ont montré qu'avec peu de moyens, mais une vraie organisation était beaucoup plus résiliente qu'avec beaucoup de moyens et une désorganisation comme les Russes, quelque part. Hein, si on peut, Et donc, ce qui veut dire ici que ça suppose une organisation sociale, avant tout, et des moyens qui viennent accompagner cette organisation. Mais s'il n'y a pas cette organisation de base, et c'est le problème de la... J'ai écrit un article dans la revue des SI, le sujet récemment, c'est le problème des armées de professionnels. C'est est-ce qu'on ne transforme pas finalement les combattants en mercenaires? C'est dans le sens juridique du terme, mais finalement... On le sent dans les sociétés, même aux États-Unis. Il y a eu un sursaut patriotique après le 11 septembre. Et puis, en fait, c'est une armée professionnelle. Donc, les gens, ils vont se faire payer, ils sont payés pour ça. C'est comme ça que les citoyens le ressentent. Et aujourd'hui, on a énormément de problèmes de simplement de réintégration des vétérans qui ont fait parfois, comme on a vu, des choses horribles, vraiment terribles. Et qui, en plus, ont survécu à des traumas qui ne permettent pas aux gens de survivre. Voilà. Donc, ils sont traumatisés psychologiquement, ils sont physiquement diminués. Moi, j'ai vu des choses horribles, hein, vraiment des retours sur la vie des gens. Et ils arrivent dans la société américaine et les gens les considèrent comme rien. Ils n'ont aucune reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est un problème. Parce que ça veut dire qu'on va avoir un problème de recrutement, parce que les gens ne vont pas non plus vouloir s'engager. Mais surtout, en cas de vrai conflit, on sait bien qu'une armée professionnelle ne suffit pas à répondre. Les Ukrainiens, ils ont un système de conscription. Donc, aujourd'hui, on a 230 000, grosso modo, militaires, mais de gens déployables, en gros, c'est 60 000. Hein, donc, en fait, c'est pas beaucoup. Moi, je me souviens d'un général français, ça, certes fermé, qui disait, avec l'armée qu'on a aujourd'hui, on serait capable de devenir moins de 100 km sur le front, par rapport aux 650 km du front aujourd'hui en Ukraine. Parce qu'en fait, c'est ce que permet la force que l'on a. Donc, si on veut tenir un front, même pour tenir le rein face aux Allemands, il faudra un peu plus. Donc, ce qui veut dire ici qu'on a, comme vous soulignez, un problème de choix collectif de ce que l'on veut défendre et comment on veut défendre nos valeurs aussi, les promouvoir. Parce qu'en fait, la construction de la défense est aussi un moyen de dissuader l'adversaire de nous attaquer. Et je pense que l'erreur de Poutine, c'est de ne pas avoir compris la capacité de résilience de la société ukrainienne. mais qu'on voit des pays comme la Suisse, comme la Suède, qui se sont organisés, la Suède ou la Finlande, dans un concept de défense totale, où en fait, c'est le même principe que la Suisse, hein, on va miner les ponts et miner les vallées, comme ça, ils ne vont pas avancer. Hein, donc ici, bon, c'était moins le cas pour la Finlande, mais ils ont des lacs, ça comporte de la force de montagne. On voit ici que en fait, on ne peut pas dissocier la défense de la société. Parce que sinon, en fait, on sous-traite et on a le risque d'un effondrement de la société face à un choc. Ça veut dire ici que ça veut dire un coût social aussi. Hein, il faut que les gens acceptent cet engagement. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui dans des sociétés qui sont devenues très hédonistes.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut, au fond, développer le nationalisme dans nos sociétés? Ce qui est une question que personnellement, je trouve redoutable.
Alors, le nationalisme, c'est pas la même chose que le patriotisme et que l'engagement dans la défense. Je pense que le nationalisme, c'est une vision politique, notamment construite souvent par opposition à autre chose, que d'autres personnes, hein, plus clairement. C'est la vision facile de la politique. Hein. Avoir un ennemi commun, c'est plus facile que d'avoir un projet commun. Le patriotisme, c'est avoir le sens de l'engagement pour le collectif. Et après, il faut voir comment on construit aussi cet engagement. Sur quelles valeurs? Il ne s'agit pas simplement de se militariser. Il s'agit aussi de savoir pourquoi on se bat. Hein, pour qui, pourquoi meurt-on? Hein, comme disaient les Vietmines. Je pense qu'ici, c'est un élément important. La défense est un moyen pour protéger un projet de société. Ce n'est pas une fin en soi. Et c'est là où vraiment ça suppose une vraie vision politique.
Parce que les Ukrainiens et les Russes sont deux sociétés extrêmement nationalistes et ça les conduit aussi à la guerre.
Le nationalisme ukrainien s'est construit par opposition à l'agression russe, en grande partie. Comme je le disais précédemment, on le voit.
Et pas seulement depuis 2022, depuis...
Non, depuis 2014, en fait, très clairement. Alors, bien sûr, le problème, c'est que on passe vite de la défense d'une société au patriotisme virulent et au nationalisme intransigeant. Donc ici, c'est vraiment une question de réflexion sur le choix collectif et ce que les hommes politiques font aussi en termes de projet pour la société. C'est très facile de... Tous les pays qui sont en crise ont tendance à utiliser le nationalisme comme un moyen pour trouver un échappatoire. Regardez la Chine par rapport à Taïwan. On parle de la possibilité d'une agression de Taïwan par la Chine. Mais dans le passé, régulièrement, on a eu des crises parce qu'il y avait un problème interne en Chine et... Il y a d'autres situations dramatiques. Prenez les Argentins par rapport aux Malouis. Hein, l'agression, enfin, la reconquête, un territoire qui était contesté quand même de certaine manière, hein, en termes de légitimité, qui était vraiment légitime pour détenir les Malouines. Est-ce que c'était les Falklands britanniques ou les Malouines argentines? Mais les Argentins ont été conquérir les Malouines parce qu'ils avaient une crise économique et sociale profonde, et ainsi de suite. On voit bien, à chaque fois, ça prouve que c'est un dysfonctionnement de la société, le militarisme. C'est un dysfonctionnement parce que quand on n'est pas capable de trouver une solution à un problème interne, on cherche une solution externe pour avoir un échappatoire à la crise, en espérant que peut-être, par chance, ça résoudra le problème. Donc, il y a une différence entre la défense et le militarisme. Le militarisme est agressif, la défense, c'est un moyen d'empêcher. Moi, je pense qu'on ne travaille pas assez sur la notion de dissuasion. En France, quand on parle de dissuasion, on parle de dissuasion nucléaire, qui est une dimension importante. Surtout pour un petit pays comme la France, on est un petit pays. Hein, on ne pourra jamais s'affronter à une grande puissance comme la Russie, la Chine ou les États-Unis. Hein, on ne sait jamais. Mais la dissuasion nous a permis de trouver un point d'équilibre. Hein, c'est la phrase de De Gaulle, la dissuasion du faible fort. Hein, parce que, ayant la possibilité d'infliger des dommages inacceptables à l'adversaire, on peut dissuader, nous attaquer. Mais, pour répondre à la remarque de monsieur, la dissuasion, elle n'est pas que nucléaire. Et on voit bien qu'en Ukraine et en Russie, finalement, la menace nucléaire est là, mais elle n'est pas en jeu. En fait, elle n'arrive pas à rentrer en jeu parce que personne n'osera, même Poutine, utiliser des armes nucléaires pour détruire simplement son champ de bataille des adversaires. Parce que ça serait ouvrir la voie de Pandore. Et donc ici, et alors, comme je disais, les Chinois sont contre. On est notamment contre. Et il faut que ça reste dissuasif. Mais la société en tant que telle, en son organisation et ses moyens militaires, entre autres, doit être aussi dissuasive. Parce que si l'adversaire sait qu'il serait très compliqué d'avancer sur un territoire, il ne va pas voir l'intérêt de le faire. Donc ici, c'est toute la logique d'une dissuasion où la société est solidaire et qu'elle a des moyens aussi de pouvoir mener la bataille. Donc là, c'est les deux dimensions. Les deux sont interactives. Que des moyens sont la solidarité nationale, ça ne marche pas. La solidarité sans les moyens, on va très loin. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de convaincre l'adversaire que ça sera très compliqué. Et c'est ça la vraie objectif de la défense. C'est d'être dissuasif. C'est d'éviter l'entrée en guerre.
Merci. Il faut qu'on avance. Donc, on va passer à au troisième temps, troisième et dernier temps de notre forum. Peut-être qu'on a été un petit peu naïf quand on a préparé cette soirée et choisi la troisième question. Quel scénario possible de sortie de conflit? Donc, sortie du conflit. Et on a commencé à dire déjà tout à l'heure qu'on est parti pour un conflit. Donc. Et enfin, la question se pose quand même. Donc, est-ce qu'on peut, on peut voir faire des scénarios comme quand les gens qui font de la futuroscopie et puis essaient d'anticiper le futur. Donc, qu'est-ce qu'on peut, quel scénario on peut faire concernant une fin, une sortie de conflit, une fin de guerre, il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Voilà, je ne sais pas qui commence.
Je continue à commencer. En fait, aujourd'hui, c'est difficile parce que tout le monde a été déçu par rapport à ce qu'il pensait pouvoir faire. Les Russes se sont dit, en quelques jours, on va renverser le pouvoir, instaurer un pouvoir fantoche, et puis on va neutraliser cette région, on va la finlandiser, en fait. Ça n'a pas marché, parce que justement, le pays était préparé, et il s'attendait, et il était prêt à réagir. Les Ukrainiens ont aussi eu beaucoup d'informations qui ont permis de réorganiser leur outil pour éviter d'être frappés, notamment de disperser leurs moyens, pour éviter justement qu'ils puissent être détruits, hein, parce qu'une concentration, c'est très utile, mais c'est une belle cible. Hein. Voilà. Donc, en fait, les Russes ont été vite arrêtés. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont perdu beaucoup de moyens, comme on voyait tout à l'heure. La destruction de moyens est massive, mais de l'autre côté aussi. Malgré le nombre de morts, le nombre de pertes de moyens physiques, humains, catastrophiques. Enfin, je veux dire, personne n'a envisagé une hécatombe de cet ordre-là. Et puis, les Ukrainiens ont pensé qu'ils pouvaient renverser la vapeur, faire une offensive, mais sauf qu'ils sont heurtés à la propre capacité qu'ils avaient eu à résister, puisque eux-mêmes se sont mis en position d'assaillants, non plus de défenseurs, et donc la disproportion des moyens s'est retournée contre eux, en quelque sorte. Et puis surtout, quelque part, si vous regardez des cartes, alors j'ai pas vu des cartes, mais les Russes ont fortifié, ils ont fait l'Maginot. Et ça, c'est très difficile à surmonter, parce que ça bloque la manœuvre. Enfin, ils font tout pour empêcher la manœuvre, en fait. Et donc ici, en fait, Bruno Tertré, que vous connaissez peut-être, qui est à la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui a publié un ouvrage sur les questions géopolitiques, évoquait à l'Assemblée nationale, dans une audition récemment, le fait qu'on avait un scénario à trois niveaux. On peut avoir 3 mois, 3 ans, 30 ans. Trois mois, c'est, eh bien, en fait, un des partenaires qui s'effondre. Parce qu'en fait, la tension, l'effort militaire, humain, politique est insoutenable. Heureusement que nous aidons les Ukrainiens, mais que peut-il se passer? Eh bien, on a vu la révolte de Wagner face à l'incurie, si on peut dire, du pouvoir poutinien. Ça a échoué, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un putsch, parce que certains disent, mais ça pourrait être pour le pire. Hein, ne croyez pas que ce soit forcément pour la paix, parce qu'on peut avoir des membres beaucoup plus radicaux que Poutine qui peuvent arriver au pouvoir. Hein, des ultranationalistes qui sont justement. Donc, c'est, quand vous écoutez les discours en Russie, moi, je suis pas très rassuré, hein. Au mieux, Poutine essaie de négocier avec lui, il peut y avoir beaucoup de furieux en face, hein. Donc, l'effondrement n'est pas forcément dans le bon sens. La Russie a les moyens de tenir parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont une industrie quand même assez importante. Ils ont une population beaucoup plus grande, hein. C'est quand même 40 millions d'Ukrainiens face à 150 millions de Russes. La guerre, c'est une guerre d'attrition. À la fin, on perd des hommes, on perd des moyens physiques. Et c'est celui qui a le plus de moyens à la fin qui résiste. Ah, c'est comme ça que ça se finit, en règle générale. C'est comme ça que les guerres mondiales se sont terminées. Hein. C'est parce qu'il y en a certains qui étaient, quand on voit la saignée en Allemagne, dans les deux cas, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et la saignée s'est arrêtée plutôt en notre faveur, du côté de 1914-18, parce que les Américains ont porté du sang frais, hein. Donc, très clairement. C'est ce rapport humain aussi qui, finalement, l'emporte. Il faut tenir le terrain. Enfin, c'est des moyens matériels, mais c'est des moyens humains. Il faut être présent sur le terrain pour pouvoir contrôler la situation. Donc ici, le risque, c'est que ça peut s'effondrer aussi rapidement du côté ukrainien si on a un changement de majorité ou de président aux États-Unis et que le président, comme l'a dit Trump, comme l'ont dit les républicains, on arrête. La crise aujourd'hui aux États-Unis, c'est parce que les républicains les plus radicaux ne veulent plus payer pour l'Ukraine. Le problème, c'est que si on arrête de les aider, ils n'auront plus la capacité à continuer à se battre. Donc là, c'est une situation. 3 ans, ça pourrait être une guerre d'attrition, véritablement encore, parce que ça fera 5 ans de guerre. C'est très très long, c'est plus long que les guerres mondiales. Hein. Et donc ici, vu l'intensité des batailles, ça va être un problème d'affaiblissement progressif des ressources des uns et des autres. Et puis, ça peut conduire à un scénario de 30 ans, où finalement, on a un front gelé, comme en Corée. Et là, ben en fait, le front s'est stabilisé, personne n'a les moyens de pouvoir lancer une grande offensive. Hein, n'oubliez pas quand même que la Première Guerre mondiale, on s'est arrêté parce que les gens étaient épuisés sur des offensives sans arrêt, qui n'aboutissaient pas. Donc, il faut trouver. Donc ici, on peut avoir une sortie au bout d'un certain nombre d'années où les gens négocient un accord, personne n'est content, et qu'on va donner lieu à un nouveau conflit, potentiellement. Hein, donc une sorte de conflit gelé qui peut se réactiver de temps en temps. Comment on peut en exister dans d'autres régions du monde, hein, pensez au Cachemire, par exemple, la frontière entre la Chine et l'Inde. On a eu, il y a 2 ou 3 ans, une nouvelle flambée,
Oui,
hein,
je voulais
petite,
savoir si ça allait mieux, comme ça vous voyez, si tu avais pu reprendre le
sensiblière sur
travail,
les deux pays les
et
plus
en
violents,
arrêt maladie, voilà, pour savoir un peu
des
comment
chances de guerre, hein.
on se bise
Donc,
et j'espère que ça va mieux.
ça peut être très très bon.
Bientôt.
Et donc voilà, on est plutôt de partie certainement vers un enlisement qui pourrait donner lieu à une sorte de conflit gelé, parce qu'en fait, personne n'a les capacités de conduire, de changer le rythme en fait du conflit, de passer à une autre échelle. Alors aujourd'hui, il est certain que pour Poutine, il ne veut pas aller à une autre échelle parce qu'il est en élection en mars 2024, il y a la réélection, donc il va être réélu. D'ailleurs, on peut se demander, même, c'est mon hypothèse, hein, si Poutine n'a pas forcément accédé à l'impôt contre l'Ukraine pour justement pouvoir redevenir chef de guerre et donc se relégitimer, alors qu'il était vraiment en fin de course. Hein, les russologues, soviétologues d'antan disaient que finalement, il était fini pendant de préparer sa succession. Là, on est chef de guerre, on ne remplace pas. Hein. Enfin, je t'en chie, mais c'était un peu. C'était un pays démocratique. Voilà. Mais pensez que même aux États-Unis, on a eu quand même 4 mandats pour Roosevelt, ce qui était impensable. Donc ici, on est dans des scénarios où en fait on est plutôt dans une conflictualité qui va perdurer, peut-être qu'il va se calmer un petit peu en termes de morts et de destruction, parce qu'en fait il y a une fatigue humaine, parce que ben, souvent pensez à la guerre du Vietnam, pensez à la guerre d'Afghanistan. Ces guerres ont été perdues essentiellement parce que les populations n'en pouvaient plus de voir leurs enfants mourir. C'est pas une question d'argent, c'est une question de vision morale de la population. Alors je pense qu'en Russie, il y a des contestations, en Ukraine aussi, il y a beaucoup de morts, hein, la population est saignée quand même. Donc voilà, donc c'est pas une réjouissante, malheureusement, mais on voit qu'on revient aux dures lois de la guerre d'antan, sur les questions d'attrition, de fatigue morale, des populations.
Merci. Delphine.
Alors, pour prolonger un petit peu ce que disait Renaud, justement, et aller dans le même sens, alors non, ce n'est pas un sens optimiste. Hein. En fait, pour qu'il y ait fin de conflit, il faudrait que les deux parties prenantes principales souhaitent négocier. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Il y a eu des phases, en fait, hein, depuis 2022, où il y a eu des tentatives de négociations, parfois avec des médiateurs, parce qu'il y a eu des médiations tentées par la Turquie, des propositions de la Chine, aussi auprès de ses bons offices de médiation. On voit qu'on n'est plus, en fait, dans cette phase-là. Et quand bien même on en sera encore dans cette phase-là, toutes les tentatives de négociation ont échoué, tout simplement, parce qu'en fait, je pense que les deux parties prenantes ne sont pas d'accord sur la solution politique au conflit. En fait, c'est un premier élément qui risque de montrer la guerre dans la durée. Le deuxième élément, c'est, pour rejoindre ce que disait Renaud, c'est aussi la notion de fatigue, mais moi je parlerais même de la fatigue sociétale des pays, notamment occidentaux, européens, américains, vers des pays qui commencent finalement, peut-être que Pierre, vous aurez des informations concernant les valeurs des Européens sur ce sujet, mais un certain nombre de pays européens notamment, dans lesquels on voit bien que le soutien militaire à l'Ukraine, même s'il est toujours élevé, parce qu'on est toujours, en général, à plus d'un citoyen sur deux qui soutient l'envoi d'armes létales à l'Ukraine, il commence à s'éroder. Et la meilleure des preuves, finalement, c'est le cas allemand, où on a eu, en fait, en Allemagne, un certain nombre de débats qui continuent à exister dans la classe politique allemande et dans la société allemande, qui montrent bien le tiraillement qui existe dans un certain nombre de pays, entre à la fois une volonté d'aider l'Ukraine, alors notamment dans le cas des Verts allemands au nom des droits de l'homme, par exemple, ce qui paraît assez étrange, que les Verts allemands, ils sont d'habitude pacifistes. Or, c'est eux qui ont poussé le chancelier à accepter la livraison des fameux chars Léopard 2 l'année dernière, fin début d'année, et au nom de la protection des droits de l'homme, en fait. Vous voyez, ça peut faire évoluer les choses. Mais malgré tout, quand on regarde comment la société allemande réagit, c'est une société dans laquelle la livraison de matériel militaire à l'Ukraine sur la durée commence à bénéficier d'un soutien que de moins en moins important des citoyens, a fait l'objet d'un certain nombre de manifestations contre, en fait, ces décisions-là, qui veut bien dire qu'il y a une fatigue. C'est vrai aussi dans la société italienne, et ça se traduit aussi par l'effort que font un certain nombre de partis nationalistes ou eurosceptiques dans un grand nombre de pays d'Europe. Et encore une fois, l'exemple de Slovaquie est intéressant, parce que la guerre en Ukraine n'était pas un des arguments de campagne, mais elle quand même entrée en ligne de compte dans la mesure où le parti populiste qui a gagné les élections a beaucoup tapé sur le, il faut peut-être se repenser à nous à nouveau, parce que là, c'est bien gentil, mais qui va venir nous défendre, en fait? Donc, je pense que ce risque de fatigue, il va être de plus en plus grand si le conflit persiste. Et le risque, au fond, c'est d'en arriver à une situation où les sociétés européennes, peut-être même occidentales, au sens large, le cas américain est révélateur, vont complètement se désolidariser, en fait, de ce conflit en disant, mais c'est plus notre affaire. Et je crois aussi que la multiplication récente à des conflits, on a eu l'Arménie le mois dernier, là, désormais, on a de nouveau un regain des violences au Proche-Orient, va aussi jouer dans ce sens de la fatigue, d'un monde qui devient plus dangereux, plus conflictuel, et dans lequel, du coup, le respect de repli international, il est d'autant plus favorisé.
Merci. Donc, dernier temps de prise de parole depuis la salle.
Oui, je voudrais savoir si vous pensez que le conflit israélo-palestinien peut avoir une incidence sur sur la poursuite du conflit russo-ukrainien et de quelle façon?
Alors, en fait, le la difficulté, c'est que les Israéliens sont très fortement aidés par les Américains. Et qu'à un moment donné, il va se poser la question de savoir s'il faut donner la priorité aux uns ou aux autres. Et le poids politique du lobby israélien aux États-Unis est bien plus fort que le lobby ukrainien. C'est le cas de dire, hein. En fait, l'Ukraine embête les Russes. Israël, c'est une priorité pour n'importe quel parti. Parce que si on ne peut pas abandonner Israël, si on perd les élections, ça c'est sûr. Donc ici, le problème, c'est que les stocks américains ne sont pas illimités, la capacité de production américaine n'est pas illimitée, et à un moment donné, ça va être, pas être possible. Donc de servir tout le monde. Donc très rapidement, ici, quelque part, Poutine doit être très content d'avoir cette crise en Israël, parce que ça déstabilise en fait la stratégie de Biden depuis un an et demi d'embêter tout le monde. En fait, quelque part, Biden utilise l'Ukraine pour affaiblir la Russie, mais aussi pour avoir un effet de démonstration par rapport à la Chine. Donc ici, c'est, entre guillemets, à peu de frais, un moyen de réaffirmer le pouvoir américain. Or, la crise en Israël, en la Gaza, rend les choses bien plus compliquées aux Américains. Donc c'est très déstabilisant pour les Américains. Et moi, je ne suis pas convaincu que l'Ukraine ne sera gagnant de ce pari de crash. Encore moins, et toi?
Deux scénarios d'enlisement du conflit. On peut penser que les réfugiés ukrainiens ne rentreront pas si tôt chez eux. Et même chose, les élites intellectuelles et scientifiques russes qui sont parties ne reviendront pas non plus. Quelles seraient les conséquences prévisibles à moyen terme pour ces deux sociétés?
Alors là, c'est difficile à prédire, mais dans le cas russe, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, tous les militants, on va dire, de l'état de droit et des droits de l'homme ont essayé de fuir la Russie parce que c'était devenu intenable. Et donc, le risque, c'est qu'au moment où il y aura une transition inévitable entre Poutine et un prochain pouvoir, soit parce que Poutine va mourir à un moment donné, soit parce que, on est bon un peu, il ne sera pas réélu, même si en réalité, l'élection est déjà jouée en Russie. Le risque, c'est comment on reconstruit une société avec des élites, justement, qui sont parties, en fait. Mais c'est un peu la question qui se pose aussi, dans tous les conflits. Regardez la Seconde Guerre mondiale et toutes les élites allemandes sont fuies aux États-Unis. Eh bien, en fait, un certain nombre sont revenus, mais vous en avez surtout beaucoup qui sont restés aux États-Unis. Donc, ça peut poser effectivement question sur la reconstruction, on va dire, intellectuelle et politique de ces deux pays. Et je crois que dans le cas ukrainien, c'est d'autant plus important que l'Ukraine, avant, en fait, la guerre et même l'Ukraine avant 2014, faisait l'objet de beaucoup d'aides européennes dans le cadre de la politique de voisinage. Et l'objectif de cette politique de voisinage, c'était justement d'aider l'Ukraine à mener un certain nombre de réformes visant à réduire les taux de corruption qui étaient très élevés, pouvoir petit à petit amener l'Ukraine aux standards de gouvernance exigés par l'Union européenne en vue d'une potentielle adhésion. Alors, comment ça se passe quand, en fait, on a toutes ces élites qui ont été socialisées, du coup, à ces standards européens, qui sont hors d'Ukraine? Ça devient compliqué. Donc, ça peut effectivement poser de vraies questions. Mais à mon sens, c'est peut-être plus vrai pour la société russe, pour le coup, que pour la société ukrainienne, où, en fait, si on regarde la carte que Renaud nous avait proposée tout à l'heure, le conflit reste cantonné à l'Est. Donc vous avez tout l'ouest de l'Ukraine qui continue bon an mal an à fonctionner, certes avec une économie de guerre, donc certes avec probablement une politique scolaire qui est plus telle qu'elle était avant 2022, mais avec des institutions qui continuent de fonctionner.
Oui.
En admettant que l'Ukraine s'effondre, par exemple, qu'est-ce qui empêcherait la Russie d'attaquer d'autres États européens? Et comment réagiraient les Européens?
Alors, ça, c'est très compliqué. Hein. C'est le scénario polonais, si on peut dire, que les Polonais ont très peur de voir. Hein. Aujourd'hui, quelque part, la guerre en Ukraine a montré que malgré les moyens dont disposent l'armée russe, ils ont du mal à battre les Ukrainiens, qui sont un petit pays, qui a une armée qui est plus limitée, qui avait, je vous rappelle, hein, dépensé 6 milliards, enfin, ça se fait 6 milliards. Donc ça donne, l'argent ne fait pas tout, mais il donne à l'instant proportion des choses. Donc qu'on n'est pas capable, et qu'on voyait aussi les Américains en Afghanistan qui n'ont pas été capables de battre les talibans, ça montre la limite de la puissance militaire dans un conflit où il y a une vraie résistance. Ce n'est pas simplement l'affrontement entre des forces armées qui est, à la clause, c'est une bataille décisive, il y a un qui vient, un qui perd, et on négocie la paix. Enfin, ça, c'est Napoléon. Enfin, et ça, c'est plus comme ça qu'on fait la guerre. Déjà, en fait, on a estimé que si Poutine voulait véritablement contrôler l'Ukraine, il aurait fallu qu'il envoie 3 millions de soldats. Il en a envoyé 100 000. Voilà. Donc, ça vous donne la limite que l'on a dans sa capacité. Donc, déjà, s'il n'arrive pas à contrôler l'Ukraine, il aura du mal à aller plus loin. Enfin, c'est un peu malheureusement, ce qui peut rassurer les Européens. Après, c'est plus problématique pour des petits pays comme les pays baltes, notamment c'était une forte minorité russophone, qui peut donner un prétexte comme c'était dans la Plésnie ou en Transnistrie, c'est un peu particulier, parce que c'est quand même des gens qui sont toujours en Union soviétique, hein. Ils ne sont pas vraiment rattachés à la Russie. Donc c'est un peu plus un problème pour les Russes qu'une solution. Mais par exemple, il y a 30% en Estonie de russophones, et ils n'ont pas intégré. Et qui ont, que c'était un statut un peu paria. Donc, ça peut créer. Et la stratégie de Poutine dans ces cas-là, ce n'est pas l'agression militaire. C'est de susciter des mouvements populaires qui demandent le droit des peuples à leur autonomie. C'est ce qu'ils ont fait avec les provinces de l'Est de l'Ukraine. Bien sûr, il y a tout un propagande Il y a certainement des choses qui sont erronées, mais il y a quand même un fond où on est dans une zone grise. On ne sait pas comment contrôler ça. C'est beaucoup plus compliqué à gérer qu'une opération militaire, finalement, en termes de réponse. Avec l'opération militaire, on sait qui est l'agresseur et comment contrer l'agression. Donc ici, la Russie, finalement, quelque part, l'agression d'Ukraine est plus le reflet d'une faiblesse, d'un affaiblissement. C'est un pays qui, quand même, comme le Japon, est un pays en train de mourir démographiquement. C'est une catastrophe démographique. Donc c'est un pays qui est plutôt sur la défensive, qui essaie de se consolider par ses marges, avec une notion d'Ukraine comme État qui est très récente. C'est 1991. L'Ukraine n'a jamais eu de, on peut parler de principauté du 12e siècle, du 11e siècle, et c'était tout l'État moderne, au sens où on l'entend. La fluidité de notion d'État à l'époque, c'est quand même. Ben, disons que c'est un espace slave qui est rattaché plus ou moins aux uns aux autres. Ils ont été rattachés aux Polonais à l'époque, en raison du Grand-Duché de Lituanie, pour une grande partie, rattaché à Moscou à notre époque. Mais la notion d'État n'a pas tellement de sens. La Pologne de 1920, c'est pas une État-nation. C'est un agrégat de gens où il y a 40% de polonophones. D'ailleurs, ce qui explique aussi le fait que les gens se portent beaucoup battus, qu'on les veut sont mieux, parce qu'ils parlaient plus, certains sont peut-être plus ukrainiens, donc russes que polonais. Enfin, donc ici, cette notion de définition d'espace russe est problématique parce que les Russes considèrent que tous les Slaves font partie de leur environnement, jusqu'aux Croates, si on veut vraiment aller. Et donc, il n'y a pas de notion vraiment de territoire. Un peu à l'allemande ou à la française, tel qu'on l'entend. Mais après, c'est plutôt un État sur le déclin, qui s'est désindustrialisé, qui est démographiquement en déclin. Et donc, c'est plus un réflexe, véritablement, une vision d'un impérialisme au sens où on pourrait l'entendre.
Oui, une dernière question pour ma part. Il y a un nom d'un pays qui n'a pas été prononcé ce soir, c'est celui de la Turquie. Comment analysez-vous sa position, les objectifs, à moyen terme?
Alors si justement tout à l'heure je disais que la Turquie avait essayé de proposer de la médiation, d'ailleurs vous remarquerez que sur le conflit entre Israël et Gaza, la Turquie aussi se propose hein, pour comme acteur médiateur. La problématique qui se pose, c'est quelles sont les perspectives que poursuit la Turquie en réalité. Alors peut-être une puissance régionale, ça c'est très clair, mais est-ce qu'en devenant une puissance régionale, elle ne risque pas aussi d'être une forme de déstabilisation étant donné la façon dont Erdogan gouverne? C'est quand même assez préoccupant pour les pays voisins, mais aussi pour les pays européens.
Le schéma de la Turquie, c'est un schéma qui reflète les fonds, l'affaiblissement en fait, d'institutions internationales. Ça ouvre la porte à des puissances moyennes, mais qui peuvent aller très loin, puisque la Turquie est très présente en Afrique. C'est aujourd'hui une puissance rayonnante en Afrique, bien plus que la Russie d'ailleurs, parce qu'il y a une vraie présence locale. On a exporté des drones dans plein de pays. La présence économique est beaucoup plus forte que la Russie, parce que la Russie est là pour déstabiliser politiquement et essayer de. Enfin, la géopolitique de la guerre froide, en fait. Pas du tout une vision. Alors que la Turquie est une vision d'intégration politico-militaire, économique, qui est tout à fait claire, qui peut être déstabilisant parce qu'elle peut avoir des jeux comme elle peut avoir aujourd'hui à Gaza, en Libye, faut pas se leurrer, en Azerbaïdjan par rapport à l'Arménie aussi, hein, ils sont très présents, ils font des équipements d'Azerbaïdjan qui leur a permis d'avoir la supériorité. Donc c'est assez compliqué quand même ce genre de puissance, comme l'Iran peut l'être. On voit émerger des puissances comme ça régionales qui sont dans des jeux parallèles, je dirais, par rapport aux autres puissances.
Est-ce que dans le monde de l'orthodoxie, il ne doit pas y avoir des changements entre Istanbul, Moscou et Kiev?
Géopolitique des religions, c'est un sport très particulier, surtout aujourd'hui, parce que bon, Istanbul, Constantinople, c'est un patriarche qui a une autorité morale, qui n'a aucune influence et qui n'est pas très bien intégré dans le schéma avec Erdogan, parce qu'Erdogan a du mal à gérer autre chose que l'islam. Donc c'est compliqué. Il y a une autorité morale qui peut jouer pour essayer de fermer le jeu, mais le problème que l'on a, c'est que dans le monde orthodoxe, il y a souvent une politisation du patriarcat qui pose problème, notamment à Moscou aujourd'hui. Hein, le patriarche a pris fait et cause de manière radicale pour la guerre en Ukraine contre les Ukrainiens. Ce qui a d'ailleurs amené, même avant, à partir de 2016, à une scission en fait, du patriarcat de Kiev qui a dit bah, non, ils étaient rattachés à Moscou parce que sur le plan politiquement, ce n'était pas un choix. Ils ont décidé de prendre leur autonomie alors qu'ils étaient restés en fait, dans la relation avec le patriarcat de Moscou. Ce qui veut dire que ça, c'est très très mal vécu par Moscou parce que c'est scinder le monde slave pour eux. Constantinople, Alexandrie, tout ça, c'est pas grave parce que c'est une autorité purement religieuse. Mais là, on touche en fait à la nation slave telle qu'elle est vue par Moscou. Mais ça prouve aussi que cette autonomisation montre que ce jeu de rattachement religieux ou culturel, ethnique, ne fonctionne plus. Aussi, au niveau de ça ne marche pas. Paradoxalement, peut-être plus avec les Dougars, mais parce que les Dougars sont aussi une population en déclin. Qui essaie aussi de se rattacher à un environnement qui est beaucoup plus large que le leur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Je crois qu'on peut remercier vivement nos deux intervenants. N'a pas tout dit, on pourrait y passer la nuit, mais voilà, on a dit un certain nombre de choses très intéressantes et il faut penser à la suite.